Et là, 14h.
Leclerc Communication, la seule entreprise de radiodiffusion 100% locale et familiale, vous remercie.
La radio à Québec, c'est plus qu'un média d'habitude. C'est un membre de la famille. C'est presque une religion.
Et il n'y a personne de mieux placé que les gens de Québec pour offrir le meilleur combo radiophonique aux gens de Québec.
Week-end 91.9. Boulevard 102.1.
Merci de nous aider chaque jour à faire de la radio locale.
Avec et pour vous.
Parce qu'on vit le même maudit trafic que vous autres.
On mange dans les mêmes restos.
On se croise dans les mêmes festivals.
Notre radio, c'est votre quotidien. Notre quotidien, c'est votre radio. Puis ben, on changera pas. Promis.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le Marceau, soir. Le soir.
Mais bonsoir, vous êtes sur les ondes de Boulevard 102.1. Mon nom, c'est Yann Marceau. Très content de vous accompagner pour les prochaines 60 minutes, puisque, encore une fois, ce soir, j'ai un invité que j'adore, quelqu'un que j'ai appris à connaître par l'entremise de la télévision. Puis après ça, après quelques années, ben, j'ai eu la chance de l'avoir en entrevue une ou deux fois, des fois en présentiel, des fois c'était au téléphone. Je vous la présente. Son nom, c'est Karina Marceau, qui est documentariste, qui est animatrice, qui est journaliste. Elle est inarrêtable. Salut, Karina.
Allô, Yannick.
Très content de te jaser. Ça fait combien d'années que tu fais du journalisme?
J'ai commencé en 94.
94.
Donc, c'était... ça fait-tu 31 ans, ça?
Mettons,
ça ressemble à ça.
94. Ouais, t'es bonne.
T'es à 31 ans.
Ouais.
Wow, hein?
Puis, est-ce que c'est quelque chose que tu voulais faire toute ta vie?
Non. En fait, j'ai... Mais je dis non. Mon père me rappelait, il y a quelques années, que, semble-t-il, vers l'âge de 6-7 ans, ouais, j'aurais dit au coiffeur qui me coupait les cheveux que je voulais être journaliste, mais je me souviens absolument pas de ça. Je voulais être médecin. Puis, quand je me suis retrouvée en physique électrique au cégep, ça a planté.
Mais est-ce que tu étais dans la famille de Marceau qui avait beaucoup de médecins? Il y avait une famille de Marceau sur la Rive-Sud qui avait énormément de médecins?
Non, c'est pas la même famille, mais je connais cette famille-là. Et ouais, c'est très drôle parce que la mère des frères et sœurs à mon fils, c'est ouais, aussi une Marceau. On parle de Marceau par Léa, Yannick, toi. C'est une Marceau qui vient de cette famille-là.
OK.
Donc, mon fils et frères et sœurs ont une maman Marceau, mais on n'est pas de la même famille.
Puis là, à un moment donné, il a fallu que tu fasses un choix. Est-ce que le métier de docteur s'est éloigné?
Ben oui, parce que c'est ça. J'ai échoué ma physique électrique au cégep. Ah. Et puis, calcul intégral et différentiel, je ne peux pas dire que ça me passionnait. Alors, j'ai fait, oh, que vais-je faire? Je ne le savais pas trop. Et là, c'est les affaires qui m'ont intéressée. J'ai étudié en administration des affaires à l'université. J'ai trouvé ça tout aussi plate. Ça a été un parcours très sinueux, ma carrière, ouais, je dirais, puis à un tel point que j'aimerais en faire une conférence, parce que je regarde les jeunes qui doivent faire un choix de carrière, là, on commence à leur parler autour de quoi, secondaire 3, secondaire 4, qu'est-ce que tu as envie de faire dans la vie, et souvent, je sens chez eux, je vois chez eux un stress de prendre la bonne décision sur l'avenir, ouais, mais il n'y en a pas de bonne décision,
puis c'est un parcours qui... J'ai l'impression que c'est souvent trop tôt.
Absolument.
Ouais. Tu sais, quand les éducations choix de carrière ou journée carrière et tout ça, je pense que c'est secondaire 3. Tu sais, je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire dans la vie. Puis là, un moment donné, on dit pilote d'avion, ouais, peut-être. Après ça, j'ai choisi 3-4 autres métiers. Puis finalement, j'avais été faire une journée avec un pilote d'avion. Puis ça avait été le fun. Mais on est trop jeunes pour savoir qu'est-ce qu'on veut faire jusqu'à la fin de nos jours. Puis on est-tu encore dans cette génération-là? Tu sais, on va avoir juste un métier jusqu'à la fin de nos jours?
Absolument pas. Absolument pas. Puis ça crée beaucoup d'anxiété aux jeunes qui ont de se tromper. Oui. Mais trompez-vous, ça s'appelle expérimenter. Puis n'est-ce pas le but de notre vie, d'expérimenter toutes sortes, oui, d'affaires? Finalement, c'est un hasard, un concours de circonstances qui a fait en sorte que je suis devenue journaliste. Et effectivement, ça me va très, très bien. Puis les cours en administration des affaires que j'ai fait jadis me servent aujourd'hui parce que j'ai finalement démarré ma compagnie. Oui. Mais quand j'ai abandonné là, cet univers-là, en fait, Yannick, il me restait un cours à l'université pour avoir mon bac en administration des affaires. Je n'étais plus capable. Je trouvais ça ennuyant comme la pluie. Je me disais, non, je vais arrêter. Là. Et finalement, je n'ai jamais fini mon université. Et là, je me sentais vraiment comme une moins que rien, une finie. Puis, la vie a fait en sorte qu'au final, toute cette formation-là me sert aujourd'hui, même si je n'ai pas le fameux papier.
Ça t'a servi.
Oui.
Ouais, on ne sait jamais où est-ce que ça peut nous amener. Écoute, j'ai plein de choses à jaser avec toi ce soir. J'essaie de voir par quoi je pourrais commencer. Tiens, 1984, tu commences à t'intéresser à ça, 1984. Denis Lortie à l'Assemblée nationale, un homme qui était complètement désorganisé, qui provenait de la base de Carp en Ontario, qui avait fait un arrêt stop dans une station de radio pour remettre une cassette à un animateur très populaire de l'époque, qui était André Arthur, pour par la suite donner ça à Marichou Labadie. Je ne sais pas si tu te connais,
oui,
te rappelles de l'histoire au complet.
Oui.
Mais sur la lettre, c'était écrit « Ne pas ouvrir avant telle heure ».
Tu sais, tu te souviens de tous les détails,
quelle pire
toi?
Affaire. Ouais, j'ai un petit problème de souvenir. quelle pire chose à dire à un journaliste de « N'ouvre pas cette lettre avant telle heure ». Finalement, il avait ouvert effectivement l'enveloppe et avait découvert la cassette. Mais Denis Lortie s'était rendu à l'Assemblée nationale. Puis, il avait décidé d'ouvrir le feu sur des individus. Puis, on a évité encore un carnage plus grand puisqu'il s'était trompé d'heure ou de journée. Hein. C'était d'heure.
Oui.
Puis, tu as décidé de t'intéresser à ça. Tu es à peu près dans mes âges. Est-ce que tu avais un souvenir très franc de ça? Moi, je ne me souvenais pas du tout de ça jusqu'à temps qu'à un moment donné, vers l'âge de 15-16 ans, on m'a parlé de ce qui s'était passé en 1984.
Oui, moi, j'ai un souvenir très, très clair.
Oui.
Ma mère lisait à l'époque un livre dont je ne me souviens pas du titre, qui faisait référence à une attaque comme ça dans un parlement. Puis, je me souviens qu'elle, ça l'avait beaucoup ébranlé de voir la synchronicité entre ce qui s'était passé puis le roman qu'elle lisait à l'époque. Puis, elle était une amateur de André Arthur. Alors, la radio jouait souvent à la maison. Donc, j'ai un souvenir très, très clair de cette journée-là. Mais je ne pensais pas travailler sur ce thème-là. Ça fait 40 ans cette année, hein, en 2024. Et c'est encore une fois le hasard des rencontres qui m'a amenée sur ce projet-là, que je travaille avec Taïga Média, qui est une belle boîte de production de Québec. Dans le cadre d'un autre projet, j'ai rencontré le négociateur de la Sûreté du Québec, de l'escouade tactique d'intervention, qui a négocié la reddition de Denis Lortie. Un homme vraiment très chaleureux, très intéressant, un bon conteur. Donc, il n'avait jamais raconter comment ça s'était passé de l'intérieur.
Bien, parce que le crédit, on l'a souvent ramené à M. Jalbert,
absolument,
qui était le sergent d'armes de l'Assemblée nationale de l'époque, puis qui a fait les premiers contacts avec Denis Lortie, puis qui a réussi à le calmer après plusieurs heures. Là,
ça a été rapidement avant qu'il... Ouais. Ça a été facile. Bien, facile. J'aurais pas voulu être à sa place, mais ça a été assez rapide qu'il l'a amadoué avec la posture de militaire, de chef militaire.
Ouais.
Il est arrivé avec l'attitude exemplaire, l'attitude qu'il fallait pour réussir à calmer Denis Lortie, qui était vraiment dans un état mental très désorganisé.
Ouais. Écoute, de mémoire, il fumait. M. Jalbert a offert une cigarette à Denis Lortie, puis il a offert un café, puis il est allé faire un café pour continuer de jaser avec Denis Lortie. Fait que l'attention était beaucoup sur M. Jalbert, mais pas nécessairement sur le négociateur de la Sûreté du Québec. C'était la Sûreté du Québec à l'époque?
Absolument. Bien, en fait, c'est la police de Québec qui est arrivée la première sur les lieux, mais le Parlement est un lieu qui est sous l'égide de la Sûreté du Québec. Donc, c'est l'escouade tactique d'intervention qui est arrivée quelques minutes après la fusillade, parce que les morts ont été... les gens ont été tués dans les trois premières minutes. Hein. Après ça, ça a été vraiment M. Jalbert qui est entré en scène et ensuite l'équipe SWAT et les négociateurs. Ils étaient deux, ils sont toujours deux, les négociateurs de la Sûreté du Québec, lorsqu'ils sont dans des crises comme celle-là. Et d'ailleurs, M. Arsenault nous l'explique bien dans le documentaire qu'on est en train de finir de monter pour Historia. Mais donc, ces policiers-là qui aujourd'hui, 40 ans plus tard, sont plus âgés, disons, certains, pour la première fois, décident, ont accepté de raconter vraiment ce qui s'est passé de l'intérieur. Les détails dont on n'a jamais entendu parler. Donc, même si ça fait 40 ans, vous allez être... toi qui en connais déjà beaucoup, là, tu vas en apprendre encore davantage sur ce moment-là qui a marqué l'histoire du Québec. Hein. C'est, je lisais dans le cadre de la recherche avec Isabelle Lacasse, qui était la recherchiste au dossier, journaliste à la recherche, qui a fait un travail exceptionnel. Mais c'est la pire caricaturée avec une saveur politique de l'histoire canadienne, mais on y pense encore comme un fait divers.
Oui.
Alors que ça a une ampleur, même si M. Lortie était dérangé, il y a quand même une ampleur politique à ce geste-là.
Oui, bien, il voulait mettre fin carrément au gouvernement. Là.
Absolument. Puis, s'il ne s'était pas trompé d'heure, ça aurait été vraiment un carnage parce qu'il avait 400 balles avec lui. Donc, de quoi décimer complètement le gouvernement du Québec.
Est-ce que tu as eu idée, je te pose la question, est-ce que tu as eu idée d'aller le rencontrer, lui?
On y a pensé.
Parce que pour la petite histoire, c'est un homme qui a purgé la peine qu'on lui a donnée, par la suite a refait sa vie, il a acheté un dépanneur.
Oui.
On n'a plus jamais entendu parler de Denis Lortie. C'est sûr qu'il avait changé de nom à l'époque, là, mais il a toujours son dépanneur.
Oui. On a décidé que non. Parce qu'on voulait mettre l'emphase sur l'histoire, sur le travail des policiers. Pas lui redonner le haut du pavé. C'est pas ça l'histoire.
Ça. Ouais.
L'histoire, c'est le travail des policiers, comment ils ont réussi avec M. Jalbert à faire en sorte qu'il n'y ait pas davantage de victimes. Parce que si les policiers puis M. Jalbert n'avaient pas œuvré de façon adéquate, Denis Lortie était quand même équipé pour poursuivre son carnage.
Oui, puis quelques semaines avant, si je ne me trompe pas, on avait désarmé les agents de sécurité qui étaient à l'Assemblée nationale, ce qui avait facilité justement l'entrée de Denis Lortie, puis le massacre qu'il avait causé. Ah, je trouve ça franchement intéressant, puis d'entendre ces policiers-là, je veux dire, ça va être la première fois qu'on leur donne la parole, ça va être très intéressant. Est-ce que ces gars-là sont aux prises des fois avec des images, des choses qu'ils ont vécues au long de leur carrière? T'sais, cet événement-là, c'était un événement qui était quand même majeur. Là.
Mm.
Les fusillades, on n'en voyait pas tant au Québec à l'époque.
Je ne sais pas si eux, mais moi, j'ai déjà fait un film il y a quelques années, ça s'appelle toujours, là, Héros sous le choc. Et effectivement, les policiers, les ambulanciers, les pompiers, c'est des professionnels qui sont susceptibles de vivre des stress post-traumatiques. Et contrairement à ce qu'on pense, souvent, on se dit l'expérience va faire en sorte que ça va avoir de moins en moins d'emprise sur les individus.
Ouais.
Or, ce n'est pas ça que la science dit. C'est plutôt un effet d'accumulation. Donc, c'est souvent les policiers ou les pompiers ou les ambulanciers plus âgés qui vont vivre des stress post-traumatiques parce qu'il y a un effet d'accumulation.
Ah oui, puis ça, c'est en plus des gens qui, t'es victime, des victimes directes et indirectes. Là. Je parlais avec Maître Bellemare, puis Maître Bellemare, il y a eu jusqu'à tout récemment là, des clients qui étaient justement à l'Assemblée nationale cette journée-là. Puis lui, il mentionnait que quand on se rappelait l'Assemblée nationale après 10 ans, après 20 ans, après 30 ans, à chaque fois, ça déclenchait chez eux des crises épouvantables.
Mmh. On peut comprendre, là, je veux dire, quand tu as peur de mourir, c'est... Puis les victimes aussi, on a rencontré des victimes. Mais là, je ne veux pas trop t'en parler parce que le film n'est pas fini. J'aimerais ça que tu me réinvites pour en parler. Je sais que tu voulais qu'on parle de tout et de rien, mais je veux m'en garder un peu pour venir te voir quand le film va sortir.
Ça va être... Bien, c'est sûr qu'on va te recevoir dans l'émission du midi pour ça, mais il va être sur Historia?
Exact.
Celui-là?
Ouais, on n'a pas de date encore. On est en train de finir le montage. J'ai les deux mains dedans.
Ouais. Puis j'ai une autre question. Là, on va comme dans l'autre sens. Là, on avait commencé par ce sujet-là. Tu sais, le fait que tu aies quitté les grands réseaux pour partir ta propre entreprise, pour faire tes propres affaires, faire tes propres sujets, devenir la chef Carina Marceau, sais-tu le fait que tu manquais de liberté pour les grands réseaux? Est-ce que ces gens-là t'empêchaient des fois de faire des trucs que tu aurais aimé faire, hein? Mais ils disaient non, Carina, concentre-toi sur ça, puis ça, tu le feras peut-être dans tes temps libres.
Bien, il y a différentes choses dans ce que tu viens de dire. D'abord, chef, je trouve que ça ne me va pas pantoute, là. je suis créatrice.
Ouais.
Chef, c'est pas du tout ma posture parce que, bon, au final, les vrais chefs se trouvent à être les télédiffuseurs puis les producteurs avec qui je travaille.
Ouais.
Mais c'est surtout que je trouvais ça court. J'avais envie de faire plus long, des reportages. Quand j'ai commencé dans le métier, un reportage aux nouvelles, c'était, si je me souviens bien, autour de 2 minutes 22 à peu près. Et quand j'ai quitté, on était rendu à des reportages de 2 minutes 15 à peu près. Pour moi, j'ai de la difficulté à saisir qu'on puisse expliquer des enjeux de société en 1 minute 15. La vitesse aussi, faire un live en mauvais français en matinée, sur l'heure du dîner, après ça un autre, peut-être en après-midi avec les chaînes de réseau d'information continue, plus le reportage. Et aussi, j'avais envie de faire de l'international beaucoup. Puis, bon, mais à TVA, les gens de TVA que je salue, que j'aime beaucoup, mais bon, on s'entend que TVA, ce n'est pas leur marque de commerce de faire de l'international. Donc, j'ai tout simplement décidé de partir à mon compte. J'avais envie de faire du documentaire, de prendre le temps de d'étudier.
Tu avais peur de rien. Tu aurais pu rester là, faire toute ta vie là, puis à un moment donné, prendre ta retraite. Puis, tu avais peur de rien. Là. Tu t'es lancé carrément dans le vide.
Oui, je le vois pas de même. Non. Au contraire, parce que j'ai des parties de moi qui sont peureuses. J'ai tendance à faire de l'anxiété. Mais quand je suis plus bien à quelque part, j'essaie pas de fitter parce que je sais qu'au final, ça va créer toutes sortes de problèmes, des enjeux de santé mentale. Quand c'est plus cohérent avec nous, faut partir. Donc.
Mais tu sembles beaucoup apprécier ta liberté de choisir les sujets que tu vas travailler.
Ça, c'est une évidence. C'est une évidence. Là, j'arrive à une autre étape aussi où je me dis, j'aimerais encore avoir plus de liberté. Parce qu'il y a plein de sujets que j'ai envie de faire, que moi, je trouve pertinents, mais qu'au final, je ne trouve pas preneur parce que ce n'est pas dans l'air du temps de ce que le télédiffuseur veut. Puis moi, je trouve que c'est des sujets qui mériteraient d'être traités. Tu vois, au cours des derniers mois, on a parlé beaucoup de la masculinité toxique, des mâles alpha, etc. Ce sont des questions de société qui sont importantes et puis qui méritent d'être traitées dans les médias. Et moi, j'ai envie de faire... j'ai quelque chose qui monte en moi depuis un certain temps. J'aimerais ça faire une série documentaire sur les bons gars. Parce qu'il y en a des bons gars. Moi, j'en connais plein. J'en ai mon chum, ça en est un. Mes frères, des amis, etc. Puis c'est vrai qu'on manque de modèles, je trouve, de bons gars. Alors, j'aimerais ça faire une série pour parler de la masculinité positive. Mais on dirait que ça manque de... Pour l'instant, j'ai pas trouvé preneur, alors que moi, je trouve que c'est hyper pertinent puis que ça serait très nourrissant de réfléchir sur c'est quoi la masculinité positive. Ouais. Pas juste de réfléchir, mais de le vivre.
As-tu l'impression que les gens cherchent les extrêmes?
Ah bien, ça, c'est clair, là. Ouais. Que ce soit dans mon univers ou... on a tendance à donner de façon générale, je trouve, puis je peux me tromper, c'est mon point de vue, je trouve qu'on a tendance à donner davantage la parole à des gens qui sont dans les extrêmes et parce que ça donne des bons shows. Mais ce qui est protéiné pour moi, c'est plutôt la réflexion du milieu, les nuances, les contrastes, la réflexion, la profondeur. Mais là, on est dans le rapide, on est dans ce qui flash, puis j'ai tendance à croire que ça crée certains malaises. Puis tu sais, comme journaliste, on se dit toujours, allons chercher un point de vue et son contraire. Mais des fois, le contraire, là, c'est que ce n'est qu'une infime minorité à qui on donne la parole parce qu'il faut avoir le point de vue opposé, mais on est en train de donner la parole à des gens qui, au final, représentent très, très peu un point de vue qui est répandu.
Exact. Parce que l'impression qu'on peut avoir, tu sais, dans le cas des mâles alpha, là, bon, on disait que c'était de la masculinité toxique, on a comme l'impression qu'il y a presque juste ça dans
Absolument.
La société. Alors qu'il y en a des bons gars, comme tu le dis. Ça ferait certainement des bons sujets, mais je veux dire, est-ce que les producteurs sont prêts à s'embarquer là-dedans? Il va falloir que tu les convainques.
Bien, les producteurs, pour travailler avec plusieurs d'entre eux, oui. Des fois, c'est au télédiffuseur que ça bloque. Mais j'y comprends aussi la réalité. Je veux dire, on est en train de... Le monde des médias est en... profond bouleversement avec les majors américains, les Netflix, les Prime, les Walt Disney, tout ça. Donc, il faut se démarquer. Puis, on a tous tendance, les médias, puis, d'aller chercher l'affaire qui va frapper, à laquelle les gens vont s'arrêter. Fait qu'inévitablement, il faut que ça soit gros, il faut que ça soit sexy, il faut que ça choque, il faut que ça vienne chercher l'émotion. Fait qu'on fait tous partie, je pense, de cette grande problématique-là. Les médias, c'est pas facile, les médias...
Parce qu'en allant tout le temps des extrêmes, ça te donne une vision biaisée de la vraie vie. Hein.
Absolument, absolument.
Est-ce que ça te tente-tu des fois de tout le temps arriver avec des histoires, hey, j'aimerais ça parler de telle affaire, puis de te faire dire non? Parce qu'il faut tout le temps que tu es comme tout le temps en combat là, pour aller chercher un montant pour pouvoir réaliser tes trucs.
On est tous les réalisateurs, on est tous dans cette situation-là. C'est sûr que je préférais qu'on me dise oui à chaque fois. Ouais. Mais j'ai quand même le privilège de travailler beaucoup, de me faire dire oui souvent. Je pense à mes collègues réalisateurs là, et qui m'entendent et vont certainement pas pleurer sur mon cas. Mais j'aimerais ça quand même, cela dit, avoir plus de possibilités de diffusion. Alors là, je suis en train d'explorer quelles sont mes avenues pour pouvoir faire du contenu sans avoir l'approbation d'un télédiffuseur. Je vais continuer à faire des documentaires, à faire des productions pour les médias traditionnelle, la radio aussi. Mais il y a du bon contenu que j'aimerais réussir à passer autrement. Parce que
est-ce que tu as commencé à surfer sur les diverses plateformes?
Pas tant, mais c'est là que je veux regarder où je m'en vais.
Karina Marceau sur TikTok, on peut-tu la trouver sur
non,
TikTok?
Non, non, pas sur TikTok, sur Facebook. Puis moi, en fait, un des enjeux, c'est qu'en bon québécois, j'haïs ça. J'haïs ça, passer du temps d'être sur les écrans, essayer d'uploader quelque chose. Moi, je suis une fille de rencontres, d'humain à humain. Puis je trouve qu'on passe déjà beaucoup de temps sur les ordinateurs, sur les téléphones, sur l'électronique, sur la vie virtuelle. Mais je vais avoir quelqu'un qui va m'aider pour ça. Moi, je vais faire le contenu, puis je vais tout simplement avoir les ressources qu'il faut pour faire la partie que j'aime pas. Autant que j'aime pas faire mes rapports de taxes, autant j'aime pas uploader du contenu sur les réseaux sociaux. Fait que je vais aller me chercher des ressources qui vont m'appuyer là-dedans, tout simplement.
Autre sujet que tu vas aborder ou que tu as déjà abordé, la fissure obstétricale.
La fissure, oui, obstétricale.
C'est quoi ça? Là, tu vas t'en aller avec une gang de médecins, puis tu vas aller raconter ces histoires-là, des histoires de jeunes filles qui sont épouvantables.
Oui, bien en fait, je m'en vais à Madagascar en mars. J'ai gagné une bourse de journalisme du Fonds québécois en journalisme international. Puis je pars avec des médecins de Québec qui vont opérer des jeunes filles à Madagascar. On a entendu parler un peu, pas assez de l'enjeu, notamment des mutilations génitales par rapport à l'ampleur du problème, là, les excisions et les infibulations. Et bon, on a encore moins parlé des fistules obstétricales. En fait, c'est des jeunes filles qui deviennent mamans trop jeunes, 11, 12, 13 ans, soit à la suite de mariage ou encore à la suite de viol. Et leur petit corps n'est juste pas assez formé pour donner naissance. Donc, ça fait une espèce de trou entre... Puis là, s'il y a des gynécologues ou des urologues qui m'écoutent et que je verbalise mal ce qu'est la fissure obstétricale, je m'en excuse. Tout ça sera bien expliqué par les médecins dans les productions, mais ça fait un trou entre l'utérus et les voies urinaires. Ça crée de l'infection. Donc, des problèmes aussi de défécation où elles s'urinent, les jeunes filles s'urinent sur elles-mêmes, elles s'infectent, elles peuvent mourir. Et elles sont aussi rejetées par les gens de leur communauté parce qu'elles ne sentent pas bon, etc. Bref, c'est des vies épouvantables, brisées à cause qu'elles ont donné naissance à un âge trop jeune. 500 000 femmes par année meurent de fistules obstétricales et on en entend très peu parler. De là, la raison pour laquelle je pense que j'ai gagné le concours en journalisme.
Le 500 000, c'est uniquement à Madagascar?
Non, c'est sur la planète. Mondial. Mais beaucoup de femmes restent avec des handicaps causés par ces problèmes.
C'est quelque chose qui peut être réparé.
Assez facilement. C'est ça qui est triste parce que ça prend une opération qui est assez simple à faire. De ce qu'on m'a expliqué, il ne faudrait pas qu'on me demande de le faire. Je ne serais pas capable de le faire, mais ça peut être assez réglé assez facilement. Puis donc, je pars avec des médecins de Québec qui s'en vont à Madagascar.
Les autorités là-bas, pourquoi ils ne règlent pas ça par eux-mêmes? Pourquoi on a besoin de médecins de l'extérieur pour venir aider les jeunes filles là-bas?
Bien, c'est un des pays les plus pauvres de la planète, Madagascar. Il y a une belle collaboration de ce que j'en ai saisi entre le ministère de la Santé malgache et les médecins. C'est une communauté de médecins internationaux. Il manque de ressources, il manque de tout à Madagascar. Donc, c'est pas non plus une priorité. Mais là, on voit qu'il y a vraiment, des alliances qui se font pour aider ces jeunes filles-là.
Est-ce que tu es capable de te détacher de tes émotions quand tu parles de ces sujets-là qui sont on va se le dire, là, c'est triste à mourir, des jeunes filles qui tombent enceintes à 11 ans, 12 ans par viol et tout ça, puis qui développent des problématiques, puis ensuite, ces jeunes filles-là sont rejetées. T'es-tu capable de te détacher de ces émotions-là?
Me détacher, non. Je pleure souvent. Ouais. Ça arrive en tournage
c'est
aussi.
C'est humain. Hein?
Ouais. Oui, oui, c'est tout à fait. C'est humain, puis je ne veux pas me détacher de ça et je ne veux pas être insensible au travail que je fais puis aux gens que je rencontre. Donc, je pleure souvent sur le terrain, puis je me pose des questions. Mais comment se fait-il qu'on laisse faire ça? Comment se fait-il comment se fait-il qu'on viole une jeune fille de 11 ans? Je ne saisis pas et ça me fait mal à l'humaine que je suis. Puis ça devient un moteur aussi pour continuer à faire ce que je fais. Là aussi, il y a une réalité à laquelle je pense souvent, puis je ne sais pas, je vais faire quelque chose avec ça à un moment donné, mais moi, ce qui se passe à l'heure actuelle en Afghanistan avec les femmes, déjà lors du premier... lorsque les talibans étaient au pouvoir... déjà, c'est épouvantable, la situation des femmes. Mais là, depuis qu'ils sont de retour au pouvoir, depuis 2021, c'est encore pire. Ouais. Là, ils n'ont même plus le droit, on n'a même plus le droit d'entendre leur voix. Sur la place publique. Dernièrement, je disais que là, on demande que les fenêtres soient calfeutrées pour qu'elles ne voient plus à l'extérieur, qu'on ne les voit plus. Qu'est-ce qui amène une communauté à vouloir faire ça à ces femmes? C'est quoi la construction sociale qui amène un mouvement politique à faire ça? Je comprends pas.
L'homme est capable du meilleur comme du pire. Dans ce cas-ci, on est pas mal dans le pire. Qu'est-ce qui amène les hommes à faire ça? Honnêtement, je pense que c'est de l'endoctrinement, là. Que ce soit d'un bord comme de l'autre, dans toutes les religions, ceux qui sont beaucoup trop ancrés dans ces religions-là, puis qui poussent des fois leurs réflexions encore plus loin que la religion les amène, ça donne ce type d'atrocité-là. Puis on pensait que nos militaires allaient régler le problème là-bas. Ils ont essayé de le régler. Pendant un certain temps, ça a mieux été. Malheureusement, les talibans sont revenus. Puis même aujourd'hui, nos gouvernements négocient avec les talibans. C'est d'une atrocité. Mais de voir que t'es capable de garder cette sensibilité-là tout en faisant tes reportages, je trouve ça tout à fait honorable de ta part, là. Moi, je serais trop choqué, là. C'est des genres de sujets qui m'enragent, qui me rend complètement fou. J'ai peut-être pas cette maturité-là que toi.
Hein? Oh mon Dieu, maturité!
Mais les gars, c'est tout le temps un peu plus long que les
autres. Hey, maturité. Je sais pas si j'ai de la maturité, mais...
Mais tu partirais là-bas? En Afghanistan?
Ah, ben là, pas là, parce que c'est trop... je pense que c'est trop dangereux à l'heure actuelle, vraiment. J'irais peut-être au Pakistan. J'y suis déjà allée, j'ai des contacts au Pakistan. Le Fixer, avec qui je travaille au Pakistan. Fixer, c'est, pour ceux qui connaissent moins ça, là, c'est comme un journaliste de la place qui, nous, quand on va à l'étranger, va s'assurer qu'on ne commette pas de faux pas, va nous aider sur quelle route passer, va faire la traduction, etc. Parce qu'on s'entend que le Pakistan, c'est pas un territoire que je connais bien. Donc, le producteur, avec le fixeur avec qui je travaille au Pakistan, lui, il a travaillé beaucoup en Afghanistan, dans tout ce qui est... C'est un fixeur qui est extraordinaire, là. Il y a 55, 60 ans, là, quand il y a eu toute l'histoire avec Ben Laden, quand Ben Laden s'est caché en Afghanistan, ouais. Il a travaillé avec des journalistes là, qui sont allés sur le terrain. C'est lui qui a aidé des grands réseaux à travailler sur ce dossier-là de Ben Laden. Donc, c'est un gars à qui je fais extrêmement confiance. Donc, j'irais peut-être quelque part à la frontière du Pakistan, puis l'Afghanistan, mais je ne rentrerai pas en Afghanistan pour l'instant, parce que quand même, j'aime beaucoup mon travail, j'aime beaucoup l'étranger. J'aime beaucoup aller dans des endroits qui sont inhabituels pour traiter de sujets qui ne sont pas mainstream à mon québécois. Mais jamais je mettrai ma vie en danger. Là, je suis une maman, puis je veux revenir auprès de mon chum puis mon fils.
Mais dans d'abord pour moi que ton chum doit halluciner à chaque fois quand tu pars pour ce genre de mission-là.
Faudrait lui demander. Non, parce qu'il sait que je veux revenir, puis il sait que je suis pas une tête brûlée.
Ouais.
Tu sais, je dis ça, je suis quand même pas une journaliste en zone. Il y a des collègues qui font des reportages encore bien plus intenses que moi, là, qui sont aujourd'hui, mes collègues qui sont à Gaza, mes collègues qui sont en Ukraine, que je salue d'ailleurs. Là, tu sais, je veux dire, là c'est une autre game.
Je vais parler avec Michel Jean de TVA, qui a été correspondant, justement, puis que lui, s'était fait tirer dessus. J'en ris parce que je me rappelle de ce qu'il m'a dit par la suite.
En Afghanistan, hein, qu'il s'était fait tirer?
C'est une bonne question. Je l'avais reçu en entrevue il y a de ça quelques années, puis il était en studio avec moi, je pense que c'était un samedi matin, puis il me racontait ça, tu sais, qu'il avait été correspondant, qu'il s'était fait tirer dessus. Je dis, mais c'est comment c'est de se faire tirer dessus, là, quand on n'est pas armé? Il dit, ben c'est un drôle de lundi.
Mais tu sais, on parle des journalistes, c'est une chose, mais... Il y a des populations complètes qui se font se tirer dessus.
Ouais.
Et nous, c'est dans le cadre de notre métier, mais il y a tellement de familles dont c'est la vie, là, vivre sous les bombes de façon quotidienne. C'est d'une tristesse inouïe.
Ouais.
Je ne sais pas quand est-ce qu'on... Tu sais, je parlais de l'Afghanistan. J'écoutais une conférence d'un géopoliticologue sur l'Afghanistan, sur l'histoire de l'Afghanistan, pour justement préparer éventuellement un projet sur l'Afghanistan. Puis l'histoire de l'Afghanistan, de l'Antiquité à maintenant, c'est des histoires de guerre. Ils sont sur une route entre la Chine, l'URSS. Donc, c'était une route de passage. Genghis Khan, Alexandre le Grand, les Russes, c'est une vie sous les bombes.
Oui, puis il y a des décennies, il y a des gens qui voyageaient en Afghanistan et qui pouvaient voir des femmes sur la plage. Là.
Mm.
Aujourd'hui, ce serait incroyable de voir la différence entre 1950-1960 versus 2024, où ces femmes-là sont cloîtrées comme des sœurs.
Tu parles de l'Afghanistan ou tu parles de l'Iran?
De mémoire, c'était l'Afghanistan.
Parce que l'Afghanistan, depuis les trois guerres contre les Britanniques, là, je ne suis pas une spécialiste de l'Afghanistan.
Mais ça, c'est pas que ce soit le Pakistan.
Je pense que plus l'Iran. Parce qu'effectivement, l'Iran, dans les années 70, les femmes étaient en mini-jupe, puis c'était une vie à l'occidentale.
Ouais.
Mais l'Afghanistan, depuis le 19e siècle,
ils ont toujours été cloîtrés.
Il y a un émirat qu'on appelait l'émirat de fer qui a fait vraiment une politique intérieure épouvantable. Et je pense que c'était pas aussi libéral que l'Iran l'était dans les années 70.
OK. Mais ça n'a pas toujours été hardcore comme ça. Il y avait des moments peut-être un peu plus lousses.
Absolument.
OK. Fait que c'est ça. Mais je trouve que, tu sais, puis on le sait, là, tu nous l'as dit la dernière fois que tu es passé ici, tu fais toujours attention, mais il y a quand même toujours un risque, là. C'est sûr que pour ton conjoint, lui, chaque fois qu'il voit sa blonde partir, il se dit... Je fais confiance, mais j'ai peur pareil.
Oui, il me fait confiance, oui.
Oui. OK. Autre chose que je voulais aborder avec toi, la face cachée, est-ce qu'il va y avoir enfin une autre saison?
Hey, on travaille là-dessus.
Ouais.
Ça regarde bien. Ça regarde bien. J'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup, beaucoup, beaucoup.
C'est toujours des questions de budget?
Non, en fait, c'est une... Ben oui, le budget, il fait pour beaucoup. C'est les sujets. Là, on a passé la phase de développement, donc proposer des sujets. Et là, on est en train d'écrire quelques scénarios pour convaincre TV5 de repartir. Mais c'est tellement une belle série qui est extraordinaire à faire, des pays sous des angles qu'on connaît peu. Là. Puis ce qu'on a sorti comme sujet, il y a de quoi faire une deuxième saison. J'aimerais vraiment beaucoup.
Carina Marceau, as-tu des fois le syndrome de la page blanche? Ou t'as tout le temps des choses que tu veux entamer?
Ah, le syndrome de la page blanche, je ne l'ai pas du tout. J'ai des carnets de notes. Mais le syndrome de l'imposteur, oui. Même après 31 ans de métier, je doute de moi de façon... C'est viscéral, puis je suis vraiment tannée de ça.
Ouais, mais tu vois, il y a Julien Poulin qui est décédé il y a de ça quelques jours, là, puis sa sœur a parlé un peu, son ancienne conjointe. Moi, j'ai appris que Passepartout sortait avec Elvis Gratton. Ils ont été ensemble pendant 22 ans. Donc, Marie Ekel puis Julien Poulin ont été ensemble pendant 22 ans. Ma Passepartout avec Elvis Gratton, j'en revenais pas.
Ah, t'étais Passepartout ou Pascaro?
Moi, j'étais... je pense que j'étais plus Pascaro.
OK, moi, c'est ça. Oui. Mais donc, quand même... Alors, ils ont su préserver leur vie personnelle. C'est beau, ça aussi.
Ouais. Mais elle disait qu'il était constamment torturé puis qu'il doutait encore de lui puis qu'il avait jamais l'impression que, tu sais, il était rendu au sommet de son art et tout ça, alors qu'il avait une super de belle carrière.
Absolument.
Tu sais, puis il y avait Elvis Gratton, oui, qui était un de ses personnages, mais il a fait d'autres choses, là, Julien Poulin. Fait que le sentiment d'imposteur, je pense que tout le monde l'a. En fait, si vous ne l'avez pas, ça doit être un problème.
L'as-tu, toi?
En fait, moi, c'est l'amour que je peux avoir parfois de la part des auditoires, de l'auditoire que je considère que je ne mérite pas.
OK. Ouais.
Je ne mérite pas, parce que parfois, tu sais, on a la chance de rencontrer des auditeurs, puis ils nous donnent la main, puis des fois, ils nous prennent par les épaules, puis ils nous apprécient, puis « Hey, merci, tu nous divertis, puis c'est drôle, puis tu deviens-tu telle affaire, t'as dit des niaiseries. » Dans mon cas, c'est souvent des niaiseries qui se souviennent. Fait que on jase, puis cet amour-là, on dirait que j'ai de la misère à la recevoir.
Okay.
Je le sais qu'elle est là, je le sais qu'elle est présente, mais je me dis « Pourquoi moi? »
Ben parce que tu fais un bon temps, tu fais un bon travail, puis tu parles à leur cœur, puis...
Ouais.
Oh là là!
Mais le sentiment d'imposteur, tu sais, je me rappelle d'un gars que j'ai eu en entrevue, je vais retrouver son nom rapidement, mais il me disait, tu sais, Yann, après 25 ans de carrière, à tous les jours, je me dis, mais... Je suis encore bon, mais c'est un gars qui a jamais... Puis ouais, Pierre-Yves-Laure.
Oui.
Puis il me disait, mais tu sais, pourquoi les gens me donnent des contrats? T'sais, je le mérite-tu vraiment? Puis ça fait des années qu'il me dit ça, puis à chaque fois que quelqu'un me dit, je pense que j'ai le sentiment d'imposteur. Je pense toujours à PY aussi qu'il l'a après, malgré le fait qu'il a une super de belle carrière.
Là. Oui.
Peu importe ce qu'il fait, il est drôle, il est bon.
Bien, c'est ça, c'est qu'on se met, on se met en danger, on s'expose, on montre des bouts de soi, comme là, ce que je suis en train de raconter, il y a des gens qui vont dire, c'est qui elle, pour qui qu'elle se prend, puis sinon, elle est intéressante, je sais pas.
Parce que je pense pas, les gens t'apprécient beaucoup. T'es venu une fois dans Marceau Soir, puis je me suis fait régulièrement parler de toi lorsque tu étais là, là. Parce que la radio fait en sorte que vous pouvez me démontrer une autre facette de... que la télé.
Oui.
Tu sais, la télé, là, on a Karina Marceau qui parle bien, qui s'exprime bien, qui fait rarement des erreurs de français, qui articule, qui parle de sujets qui sont très intellectuels. Mais à la radio, on peut jaser, on peut se détendre, on peut s'amuser, tu sais. Je pense que les gens apprécient ça du fait que quand il y a des personnalités publiques qui viennent nous voir, ben ils démontrent leur côté humain, entre guillemets, alors qu'on sait que vous êtes des êtres humains.
Là. Mais en fait, on a soif d'authenticité. Ouais. Tu sais, la bullshit, là, on a soupé. Puis l'univers virtuel dans lequel on vit, j'ai l'impression que c'est un ramassé. Pas de bullshit, là, mais tu sais, on est toujours en train de présenter les aspects qui sont nos meilleurs profils, alors que la vie, c'est pas ça. Puis, tu sais, je te parlais de mon anxiété. J'ai pris conscience, mais ça fait un petit bout de temps que j'en ai pris conscience, mais ça a pris plus d'ampleur dans les dernières semaines. T'sais. Les gens, de façon générale, en tout cas, il y en a un méchant paquet qui ne va pas bien. Tu sais, la course folle, la vie étant une succession de tâches à faire, il faut que... Donc, le nombre de gens sur les antidépresseurs, les enfants, je trouve qu'on a collectivement... pas mal de témoins lumineux, rouges, qui flashent sur notre tableau de bord, tu sais. Puis j'en suis, là, tu sais, moi, c'est l'anxiété. Des fois, je me dis, OK, là, je travaille, on fait les courses, on fait manger, on faut aller voir la famille quand c'est les fêtes. OK, mais quand est-ce qu'on respire dans tout ça, tu sais?
Faut se donner des moments, faut avoir une discipline tout simplement, prendre surtout du temps pour soi. Là, la plupart des gens qui travaillent énormément puis qui réfléchissent tout le temps, OK, là, j'ai 3 enfants, j'ai 4 enfants, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça, les repas et tout ça, ils prennent jamais de temps pour eux.
Oui.
Mais prenez 15 minutes pour vous par jour, puis vous êtes obligé de le prendre. Ça change des fois la donne.
Oui, mais 15 minutes dans une journée qui en a 24, c'est quand même pas beaucoup.
Ouais, mais t'as pas mes enfants. T'as pas mes enfants, Karina. T'as un enfant parfait.
Ah non. Non, il est extraordinaire, mon fils, mais Dieu merci, il est parfaitement imparfait, comme moi d'ailleurs.
Oui. Est-ce que t'as déjà rencontré au courant de ta carrière des gens qui font ce métier-là pour les mauvaises raisons? Tu sais, des gens qui veulent constamment se mettre de l'avant, des gens qui aiment bien ça s'entendre, des gens qui veulent être le centre de l'attraction. Est-ce qu'ils font des longues carrières, ces gens-là?
Je pourrais pas te dire. Je connais pas leur motivation, à eux.
Parce que moi, je le sens rapidement. Là.
Ah
et
oui?
Quand, puis, tu sais, si tu étais invité 2 fois, c'est pas pour rien. C'est parce que je sais que tu es là, tu fais ce métier-là pour les bonnes raisons. Mais je sens les gens qui font ça uniquement pour eux-mêmes versus pour leur public, que ce soit à la télé ou encore à la radio. Tu sais, quand tu fais de la radio, tu dois le faire pour les auditeurs. Parce que si à un moment donné, tu fais ça juste pour toi,
c'est sûr.
Ça se peut que les auditeurs ils soient pas intéressés par tes propres sujets. Fait qu'ils vont juste dire, mais je sais pas à qui ils parlent, lui. Tu sais, puis. Ils parlent pas des restaurants où moi je vais, puis tout ça. T'sais, on fait ce métier-là pour les bonnes raisons, pour que les gens puissent rire, pour apprendre, qu'ils puissent échanger avec nous autres. Mais j'ai rencontré des gens dans le métier, que ce soit à la radio ou à la télé, qui voulaient se mettre toujours en premier plan, mais ce qui était important, c'est pas ce qu'ils donnaient à leur auditeur, c'est ce qu'eux retiraient de leur travail.
C'est sûr que je pense qu'à la longue, ça doit se sentir. Les auditeurs, les téléspectateurs sont des gens intelligents. Des fois, on les traite pas toujours comme ça parce qu'on se dit, ah bon, faut simplifier le plus possible les contenus, etc. Mais, moi, j'ai tendance à être plutôt de l'autre école. Les gens sont vraiment plus intelligents qu'on veut bien se l'admettre. Puis on n'a pas toujours besoin de simplifier à l'extrême les différents enjeux de société. Il faut que ça soit bien expliqué. Mais semble-t-il que les jeunes disent, moi, je veux être influenceur, je veux être devant la caméra. Mais moi, j'en ai pas rencontré. Mais la question, c'est pour dire quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux apporter dans la réflexion? Ouais. Mais moi, ces jeunes-là, je les ai pas rencontrés. Ils veulent juste être devant un Kodak.
Exact. Ils veulent se voir sur TikTok, ils veulent se voir sur YouTube, ils veulent se voir sur Facebook, sur toutes les plateformes. Mais qu'est-ce que tu vas raconter? Tu vas faire ça pour qui? Uniquement pour toi? Il y a des chances que ça fonctionne pas.
En même temps, pour regarder un peu, comme je disais, je suis pas une grande fan des réseaux sociaux, puis j'essaie le plus possible de vivre une vie réelle et non pas une vie virtuelle.
Ouais.
Je regarde la créativité des jeunes, là. Il y en a, c'est c'est fascinant là, ce qu'ils réussissent à faire. Mon fils en consomme un petit peu, il est assez limité dans le temps d'écran, mais quand même, malgré tous les griefs que je peux émettre à l'égard des réseaux sociaux, les jeunes, avec peu de choses, leur téléphone, ils réussissent à faire de la créativité qui est quand même... Il faut la souligner.
T'as-tu eu ce fameux vocabulaire marocain de « Maman, j'ai pas le temps, j'ai la flemme ».
Ah oui.
Papa, quoi? Koubé.
Ah ouais. Ça? Ouais.
C'est fameux YouTube.
Quoi Koubé, c'est passé. Oui. Là, la flemme, moi aussi, je pense, c'est un petit peu...
La flemme. Je pense que c'est la flemme.
Oui, la flemme, oui.
Puis ils ont plein d'autres « Wesh ». « Wesh, papa ». Ça se fait plus, ça. À quoi? « Wesh ».
Ah, ça, là, je n'ai pas entendu.
La politique, t'as-tu déjà intéressé?
La politique au sens...
Comme sujet?
J'ai fait un documentaire, ça s'appelait « La politique n'est pas un jeu d'enfant », sur l'impact de la politique dans les familles, sur les familles des politiciens. Puis, mon frère était en politique, il a fait 2 mandats pour le Bloc québécois dans une ancienne vie. Donc, la politique m'intéresse. Je suis la politique quotidiennement. Je ne dirais pas de façon assidue, mais je suis la politique internationale, je suis la politique américaine, la politique canadienne, la politique québécoise. Mais si ta question, c'était est-ce que la politique m'a déjà intéressée pour faire le saut en politique?
Bien, peut-être faire le saut en politique, mais surtout comme sujet, là, tu me racontes que tu as déjà fait ce sujet-là. Mais tu nous amenais dans quel endroit? Tu questionnais les familles, l'impact de la politique dans leur famille.
Ah, ouais. Oui, parce que puis c'est extrêmement difficile pour les enfants, pour les conjoints, conjointes, pour les parents. Tu sais, quand ton fils tout à fait est en politique, puis c'est, on est extrêmement dur à l'égard des politiciens. Qu'on soit dur à l'égard des politiques, en accord, en désaccord avec les politiques qu'ils adoptent ou leur posture, c'est une chose. Mais les attaques personnelles que nos politiciens subissent, et ce, peu importe le parti politique, mais c'est une horreur. Je vais m'attaquer à ta femme, je sais où tes enfants habitent. Faire embrasser une carrière politique, peu importe le parti encore, c'est des gens qui sont extrêmement courageux.
Tu t'attendais-tu à ça avant de rentrer dans le sujet complètement?
Je m'y attendais, c'est pour ça que je voulais le faire. Mais imagine si tes enfants là, entendaient parler là, Yannick Marceau, là, on devrait lyncher, il devrait suicider.
Mais je pensais plus aux enfants de Justin Trudeau. Qui doivent avoir mangé une varlope dans les dernières années, ça devait être épouvantable pour eux.
Bien, tous les politiciens politiciens, ils goûtent, les politiciens municipaux, puis c'est rendu même un enjeu pour se présenter, parce que t'es pas attaqué sur tes idées, t'es attaqué sur la personne que tu es. Et aussi, mais j'ai rencontré, j'avais parlé à des enfants de politiciens plus âgés, Claude Ryan, de cette époque-là, puis ils me disaient, mais tu sais, c'est des parents qui sont absents. Ils ne sont pas là. C'est vivre... quand on quitte pour des raisons familiales, bon, peut-être que ce n'est pas toujours le cas, puis la famille a le dos large, mais quand ton bureau de comté est à 400 km de Québec, il faut que tu passes ta semaine à Québec, puis après ça, tu reviens dans ton comté, et là, tu as le travail de comté à faire. C'est extrêmement exigeant. Et moi, je salue les politiciens. Je ne ferais jamais ce job-là. Oublie ça.
Bon, ben là, tu viens de m'enlever ma deuxième question. OK. Je rappelle aux auditeurs qu'on a le plaisir ce soir de passer la soirée avec Karina Marceau, qui est animatrice, qui est journaliste et documentariste. On va faire une très courte pause, puis on vient tout de suite.
Marceau, le soir.
Boulevard.
Chez Sport Expert et Atmosphère, les soldes d'hiver sont arrivés. Profitez de rabais allant jusqu'à 30% sur les manteaux, bottes et équipements d'hiver sélectionnés. Détails en magasin, Sport Expert d'ici.
La remise météo fait son grand retour cette année chez Enviro-Confort. Économisez gros sur votre facture avec 15% de remise en janvier, 10% en février et 5% en mars. Et c'est sans parler des subventions. L'offre est disponible jusqu'au mois de mars sur les thermopompes murales et centrales, climatiseurs, échangeurs d'air, fournaises et géothermie. Profitez-en pendant qu'il fait encore froid. Financement disponible. Détails au enviroconfort.com.
Envie de souffler un peu sans trop dépenser? Yuzu Sushi vous offre une promo à tout casser. 50 sushis pour 50$. C'est parfait pour affronter le retour à la routine. Faites vite, la promo se termine le 26 janvier. Yuzu, c'est toujours bon.
Il y en a qui collectionnent des cartes de hockey, des bébelles, de la monnaie. Mais nous, chez Monsieur Chalet, on collectionne des chalets uniques au Québec. Découvrez nos chalets locatifs en pleine nature. Nous vous accompagnerons pour trouver le chalet dont votre famille a besoin pour créer des souvenirs inoubliables.
Monsieur Chalet!
Chez Maxi, profitez de milliers de baisses de prix, dont les poitrines de poulet à 3,50 $ la livre, les côtelettes de porc combinaison de coupe à 2,50 $ la livre et le sac de 10 livres de pommes de terre blanches au Russet délices du marché du Québec à 2 $. Plus de rabais en circulaire et chez Maxi.
Votre retraite vous préoccupe? Vous vivez des changements de vie importants tels un nouvel emploi, une séparation ou le décès d'un proche? Vous vous demandez si vous utilisez toutes les façons de vous enrichir, de sauver de l'impôt, de protéger vos avoirs et de maximiser vos rendements? Je suis Marc-Antoine Reed, planificateur financier de Rage Against le matin à Boulevard. Enrichissez-vous en toute tranquillité et bénéficiez d'une deuxième opinion et d'un plan financier vivant en prenant contact avec nous dès aujourd'hui.
Équipe Marc-Antoine Reed, IG Gestion de patrimoine, Service financier, Group Investors Inc., cabinet de services financiers, 1-833 ton plan.
Personne n'est à l'abri des imprévus. Pour un prêt personnel d'urgence sans enquête de crédit ou pour un prêt déboursé le jour même, pensez FS Prêt. Service rapide et processus sécuritaire avec dépôt directement dans votre compte. Remplissez la demande en ligne au fsprêt.com.
Les résolutions, c'est bien, mais c'est pas facile de rester motivé ensuite. Pour ça, faut choisir le bon endroit. Venez donc essayer mon club. J'y suis bien depuis tellement longtemps.
Tennis, gym, spinning, workout, yoga, badminton, tout pour la famille au Club Avantage Multisport.
Décrochez le temps d'une soirée dans le Vieux-Québec. Ça vous tente? Boulevard 102.1 veut vous en faire profiter. Mercado.fm vous propose un forfait gastronomie et hôtel au cœur du Vieux-Québec, comprenant une nuitée en chambre supérieure pour deux personnes à l'hôtel Champlain, incluant le petit déjeuner, une place de stationnement et un chèque cadeau de 100 $ au bistrot L'Atelier ou au restaurant Ophélia. L'hôtel Champlain, un bâtiment historique alliant confort et modernité. Offre limitée, valide jusqu'au 30 avril au mercado.fm.
Mosaïque Culture, mur végétalisé, entretien d'espaces verts. Ça te parle? Faites ta passion pour les plantes un véritable métier avec le DEP en horticulture et jardinerie de Fierbourg. Avec d'excellentes perspectives d'emploi, tu ne manqueras pas de travail. Ça commence en janvier. Fierbourg.com.
Au Phoenix, on veille tard. On vous accueille pour des soirées inoubliables jusqu'à 3 heures du matin tous les soirs. Le Phoenix, c'est le plus gros bar de chansonniers en ville et c'est la destination du week-end pour vraiment profiter de vos congés bien mérités. Phoenix, une ambiance festive garantie. Groupe RMH à Saint-Augustin cherche des machinistes et mécaniciens industriels passionnés. Viens travailler sur des gros projets pour l'hydroélectricité, les mines et le maritime. Clavarde avec nous dans la section carrière. Groupe RMH.
Viens voir ce qu'on peut t'offrir.
102.1. La radio rock de la vieille capitale.
Ça, c'est
BLVD.
Boulevard. 102.1.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée.
Marceau, le soir. Le soir.
Karina Marceau est dans nos studios ce soir pendant 60 minutes. Bon Dieu que je suis gâté. C'est le fun de t'avoir en studio.
Mais t'es donc bien fin.
Es-tu venu à la course comme la dernière fois?
Non. Je suis venue en char.
T'es venu en voiture.
Mais cela dit, j'essaie le plus possible de faire mes déplacements à course à pied parce que sinon, je prends pas le temps assez de bouger. Puis moi, c'est fondamental dans ma vie de bouger.
Mais même l'hiver?
Ah oui.
Tu préférerais pas t'abonner au gym et aller courir au gym?
Arc, non. À l'intérieur, non, il faut que ça soit dehors. Puis là, on n'a pas beaucoup de neige. Hein? Ouais. Moi, j'aime ça faire du ski de fond. Mais là, c'est faire du ski de fond sur l'asphalte, c'est pas terrible. Mais donc, j'essaie j'inclus l'activité au sein même de mon quotidien. Fait que des fois, j'arrive dans des ministères, des rencontres, puis je suis en legging de course, puis je suis en sueur.
Mais ça sent un peu bizarre, mais... Le contenu va être là.
Voilà.
Exact. Hey, je voulais parler avec toi de deux trucs que tu fais, histoire de la médecine puis histoire de la justice. L'histoire de la médecine, tu commences en quelle année?
C'est depuis le début de l'humanité. Écoute, c'est vraiment une série qui est bonbon.
Mais tes recherches ont dû être épouvantables.
Les recherches sont quelque chose. Et je salue Catherine Baudouin à la recherche dans ce dossier-là. C'est vraiment très, très chouette à faire. On est rendu à notre troisième saison, une série qui a beaucoup de succès aussi à l'international. Et chaque épisode traite d'une spécialité médicale, donc cardiologie. Là, je suis en train d'écrire hématologie. Et on part pars toujours d'une opération. Donc, j'ai pas, donc mon désir d'être médecin, là, j'y reviens. Là, oui. Je le vis un peu grâce à mon travail parce que j'ai passé les 3 dernières années en salle d'opération. Donc, une opération, par exemple, au cerveau, mettre des électrodes dans le cerveau pour un patient qui souffre de Parkinson. Donc, oui. J'ai vraiment une posture privilégiée dans les salles d'opération. Et de là, on fait l'histoire de la spécialité.
Après ça, tu arrives dans le souper avec tes amis, tu répètes les mots techniques que les chirurgiens ont dit, puis là, ben, tu as de l'air hyper intelligent.
Eh oui, écoute, ouais. C'est bon Scrabble, ça. Donc, ça, c'est vraiment c'est une série vraiment bonbon. Puis il y a de l'animation au travers de tout ça. C'est Catherine Etty qui fait la narration. Ça se consomme vraiment comme des chips. C'est intelligent. Mais tu sais, je dis que j'ai le syndrome de l'imposteur, mais là, je suis vraiment très fière de cette série-là parce que tu regardes ça, puis c'est divertissant, c'est éducatif, puis on a tous affaire à la médecine à un moment ou un autre de notre vie, puis on s'y connaît très peu. Donc, c'est bien vulgarisé, puis c'est divertissant. Je suis très, très fière. Ça s'appelle « De la scie au bistouri », puis c'est disponible sur Savoir Média.
OK. Mais est-ce que ça part, je ne sais pas moi, des opérations telles qu'on les faisait en 1930 jusqu'à aujourd'hui en 2024?
Mais en fait, comme je te dis, on part du début. Fait qu'on fait, comme là en hématologie, je parle des saignées, je parle de comment dans le Moyen-Âge le sang était perçu. Donc je fais, écoute, c'est rapide.
Ça se fait plus, ça, les saignées.
Oui, ça se fait encore. Hein? Oui, ça se fait encore pour un type de maladie du sang où il y a une... Puis là, les hématologues, je fais des erreurs. Là, c'est vous qui le racontez dans la série, mais il y a une maladie qui a une accumulation de fer. Donc, dans le sang, la façon de soigner ou de traiter, c'est de faire encore des saignées. Ça ne s'appelle plus des saignées, mais pendant des siècles, c'était la façon de traiter. George Washington serait mort d'une saignée.
Ah, oui.
Oui, trop l'avoir fait saigner, ça, pour George.
C'est fou à quel point la technologie a avancé en ce qui a trait à la médecine. Mais, tu sais, moi, la première fois où j'avais entendu parler d'une opération, je trouvais tellement ça cruel, j'étais jeune, c'était l'opération d'Alice Roby.
Oui.
C'est ça, on voyait la madame à la télé, tu sais, puis j'étais là, hein, elle a subi ça.
Oui, elle a eu une lobotomie qu'on confond souvent avec ce qu'on appelle des électrochocs en langage populaire. C'est pas c'est l'électro... Ah, j'ai oublié le nom, là, mais le nom médical des électrochocs. Mais on confond souvent électrochocs puis lobotomie. Lobotomie, ça n'existe plus, on n'en fait plus. La sœur des Kennedy avait subi des lobotomies. C'est ce qui avait mis un terme à la pratique, qui pourtant on avait octroyé le prix Nobel de médecine à celui qui avait inventé les lobotomies. Puis les électrochocs se font encore en traitement psychiatrique et ça donne d'excellents résultats pour ceux et celles qui ont des dépressions réfractaires, qu'on appelle. Donc, ils sont, la médication ne fonctionne pas. Évidemment, c'est extrêmement codé. Mais ça, tu vois, c'est une opération que j'ai filmée dans le cadre de cette série-là. Donc, on part toujours d'une opération. Donc, dans ce cas-ci, c'était des électrochocs. Et j'ai fait l'histoire de la psychiatrie, qui est une histoire horrible. Je pense que dans toutes les disciplines médicales, les patients qui ont des enjeux de santé mentale, c'est l'histoire la plus horrible. Mais les chirurgies aussi, au départ, là, les chirurgies se faisaient par des barbiers parce que c'était mal vu pour les médecins de faire des chirurgies. Donc, on laissait cette pratique
au barbier. Avec les lames.
Fait qu'imagine, on n'avait pas encore d'anesthésie. Imagine! T'sais, on parle de notre système de santé aujourd'hui, qu'on estime qu'il connaît des ratés, là, mais on retournerait pas dans l'ancien temps, je vous garantis ça, même de quelques décennies.
Non, puis il refermait les plaies comment? Parce que là, je comprends, le barbier avait des lames, mais pourquoi fermer les plaies, il faisait quoi?
Souvent, il cautorisait avec des fers chauds.
Comme dans Rambo 1.
Ah oui, écoute, mec. Si tu me dis, hey, je me souviens pas de Rambo 1, l'ai-je déjà vu? Combien il en a fait des Rambo?
Peut-être 3-4, je sais pas. Il prenait son couteau, il faisait chauffer, puis après ça, il le mettait sur sa plaie.
Ben voilà, on a cautorisé beaucoup de plaies comme ça. Aïe, aïe, aïe.
Ça devait être épouvantable. Ouh. Épouvantable. Donc, tu as l'histoire de la médecine que tu as entamée, puis là, histoire de la justice aussi.
Oui, là, je commence l'histoire de la justice parce qu'on va finir notre 3e saison de l'histoire de la médecine. Je pense pas qu'il va en avoir une 4e parce qu'on a fait quand même le tour. Quoique, moi, je pense qu'il y aura encore de la matière. Mais donc, l'histoire de la justice, c'est une façon, je trouve, fort... nourrissante de regarder l'évolution d'une société, la façon dont le droit a évolué, parce que ça parle beaucoup de mœurs, ça parle beaucoup de valeurs de société, comment le droit évolue. Tu sais, on oublie ça, mais il y a quelques décennies à peine, l'homosexualité, c'était criminel. Ouais. Donc, l'évolution des mœurs judiciaires, quelle extraordinaire façon de parler d'histoire et de parler de l'évolution humaine.
Ben, pis c'est fou, quand on commence à s'intéresser à ça, moi j'avais regardé l'histoire de Léopold Dion.
Oui.
Une histoire qui s'était passée à Québec il y a de ça plusieurs années. Il y avait Maître Guy Bertrand qui avait été impliqué dans cette histoire-là. Puis il avait fait une reconstitution à la télé. Je pense que c'était la série Les Grands Procès.
Oui. Ça fait quelques années, hein? Oui.
Ça fait quelques années, puis moi ça m'avait marqué. C'était Gildor Roy qui jouait le rôle de Léopold Dion. Puis de voir tout le processus.
Lui, c'est-tu le monstre de Portneuf, de Pont-Rouge, hein?
C'était le monstre de Portneuf ou Pont-Rouge.
Oui.
C'était un monstre. et il avait malheureusement tué des enfants. Puis on avait vu ça, les grands procès. C'est le fun, ça. Quand tu sais que des journalistes puissent parler de ce sujet-là puis rentrer en profondeur. Est-ce que vous parlez de différents sujets?
Oui, pour l'instant, on travaille sur 5 thèmes. L'histoire des meurtres, des agressions sexuelles, mariage, divorce, vol et fraude. Puis on jette aussi un regard comment ces crimes-là sont passibles de quoi dans différentes communautés sur la planète. Donc, mais c'est vraiment rapide, là. C'est un survol, mais ça donne quand même une vision de comment on aborde la justice sur la planète, ces crimes-là.
Mais le mariage, c'est une condamnation à vie, là. Il y avait juste à ne pas se marier.
C'est ce que dit ton épouse.
Non, on n'est pas mariés. Hey, pour les prochaines années, Carina Marceau, elle va s'enligner vers quoi? Tu parlais de peut-être un peu plus de liberté pour toi, mais y a-tu d'autres gros projets dont tu rêves?
D'autres gros projets?
Ouais.
Liberté. Liberté de prône, puis de parler. C'est ça que je vise. Ouais. Être... pouvoir... c'est ça. Je dirais que mon mot thème, c'est liberté. Là, je t'ai parlé de l'Afghanistan, je t'ai parlé d'une coupe d'affaires, mais comme je te dis, j'ai tellement de sujets dans mes carnets de notes. Là.
T'arrêtes plus.
Bien, c'est ça pop-up. Puis je fais toujours des rencontres intéressantes. C'est fou quand on prend le temps de parler aux gens pour leur demander qu'est-ce qui se passe dans leur vie, à quel point les sujets viennent à soi si facilement.
Tu seras jamais capable de t'arrêter.
Oui, je ne sais pas, hein? Je ne sais pas. En tout cas, chose certaine, il faut falloir que je ralentisse. Ça, c'est vraiment, je me dis ça, là, parce que je travaille trop.
OK. Donc, dès que tu auras un documentaire qui va sortir, je pense qu'on parlait de celui pour...
Fusillade.
La fusillade avec Denis Lortie.
Au Parlement.
Ben, tu vas nous contacter, puis nous, on va te recevoir sur l'heure du midi, bien entendu, pour parler de ça. Carina Marceau, ça a été un plaisir.
C'est donc bien le fun. Merci.
Je te souhaite de passer une belle soirée, puis écoute, on se reparlera dans une couple de mois, là, avec tous les autres projets que tu auras accumulé. Là. Je te souhaite une belle année 2025 en santé.
Oui.
En fait, on ne sait plus quoi te souhaiter. Tu as l'air d'avoir tout. Fait que la santé.
Santé, puis moi, je souhaite santé et plénitude.
Plénitude.
Parce que dans le mot plénitude, il y a le sentiment d'avoir tout ce qu'il faut. Il me semble avec ça, on peut faire un sacré bout, non?
Oui, voilà. On termine là-dessus. C'est profond. On termine là-dessus.
Quel philosophe je suis.
Je vous souhaite de passer une agréable soirée sur les ondes de Boulevard 102.1. Puis on se reparle demain à 10h avec Audrey. Salut tout le monde.
Marceau, le soir.
Viens t'amuser à Gogone et Doudoune au quai de l'espace 400. Ours d'escalade géant. Symposium carnavalesque présenté par l'Épine Cloutier à Tos du 7 au 9 février. Dégustation animée avec chef de renommée les 8, 9, 15 et 16 février et bien plus. Navette Vidéotron gratuite entre le parc de la Francophonie, le quai Chouinard et l'espace 400. Viens jouer dehors tous les week-ends de janvier, les 1er et 2 février et durant le carnaval du 7 au 16 février. Entrée gratuite, activité payante. Gogone et Doudoune, une production du Carnaval de Québec.
Chez Sport Expert et Atmosphère, les soldes d'hiver sont arrivés. Profitez de rabais allant jusqu'à 30% sur les manteaux, bottes et équipements d'hiver sélectionnés. Détails en magasin, Sport Expert d'ici.
Hey Mart, qu'est-ce que tu fais toi quand tu te lèves le cou barré?
PCN.
Puis quand ton retour au gym s'est mal passé?
PCN.
OK, puis quand tu viens d'accoucher?
Ben si j'étais toi, j'irais chez PCN. C'est eux les pros. PCNphysio.com.
Pour 2025, fais-toi le cadeau de changer de job. Kia Québec Sainte-Foy et Val-Bélair offre 50 emplois permanents très bien payés. Et c'est le samedi 18 janvier qu'on veut te rencontrer en formule porte ouverte. T'es mécanicien ou tu veux le devenir? Conseiller aux ventes, chargé d'administration ou responsable de l'esthétique auto? Viens postuler toute la journée le samedi 18 janvier à l'Académie Kia, voisin de Kia Sainte-Foy. Pour une job de rêve à l'année avec une équipe de rêve qui offre la marque la plus vendue à Québec, détails sur academiekia.ca. 50 jobs, viens le 18 janvier.
Les jeudis soir, Télé-Québec vous en met plein la vue. À 20h, Pilote de brousse, une nouvelle série documentaire.
Pilote de brousse, c'est quelqu'un qui fait l'aviation cow-boy, je dirais.
À 21h, la comédie à sketch complètement déchaînée, Kamikaze.
Fin de ma tournée, girl!
À 21h30, qui a poussé Mélodie, un polar d'humour noir.
Un crime a été commis.
À 22h, Place à plaisir, animé par Pierre-Yves Laure pour faire le plein d'énergie.
On sait que la musique, ça améliore l'humeur, c'est prouvé!
Tous les jeudis soirs de 20h, on a ce qu'il faut pour vous captiver à Télé-Québec.
Toute l'équipe de Sébastien Bilodeau, courtier immobilier, est là pour vous. Avant de renouveler votre logement, allez les rencontrer. Ils peuvent aussi vous renseigner